Alors dites-moi, à quoi ça sert d'être chrétien si ça ne fait pas disparaître nos problèmes? À quoi ça sert de croire en Dieu, de suivre Jésus, de prier, de venir au culte et de lire la Bible, si ça ne nous empêche pas d'être malades comme l'est Suzanne aujourd'hui, si ça ne nous empêche pas d'être au chômage, d'avoir un accident de voiture, d'être triste pour des raisons X ou Y, bref, de souffrir? À quoi ça sert? Ok, les chrétiens disent qu'ils ont l'assurance de la vie éternelle, c'est-à-dire que quand ils seront morts, ils vont être avec Dieu pour l'éternité, c'est ce qu'ils affirment. Mais alors pourquoi continuer à vivre et par conséquent à souffrir en attendant? Pourquoi le fait de devenir chrétien ne nous permet-il pas d'aller directement au ciel? Pourquoi faut-il encore ici-bas subir les affres du péché et de la souffrance? Alors je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé ce genre de questions, peut-être que votre vie est un long fleuve tranquille, contrairement à la mienne. Mais pour beaucoup d'entre nous, en tout cas, notre vie est ponctuée, n'est-ce pas, de périodes difficiles, pour ne pas dire parfois vraiment, vraiment éprouvantes et même déconcertantes. Et dans ces moments-là, il nous est difficile de comprendre ce que Dieu est en train de faire. Ne vous êtes-vous jamais reconnu dans cette prière du roi David? Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour du chagrin dans mon cœur? Le peuple d'Israël, en tout cas, a eu de multiples occasions de se poser ce genre de questions tout au long de son histoire. Hein. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Pourquoi donc ces promesses ne se sont-elles pas encore réalisées? Finalement, est-ce qu'on a bien fait de croire en Dieu? Et déjà, pendant les 40 années passées dans le désert, on a eu l'occasion de le mentionner, hein, pendant les 40 années que le peuple d'Israël a passé dans le désert après la sortie d'Égypte, déjà le peuple d'Israël a eu le temps d'être perplexe, et même, si on lisait le récit, même de murmurer contre Dieu, et même de se poser la question de savoir s'ils avaient bien fait finalement de sortir de l'Égypte. Ils ont eu le temps d'être perplexes. Alors Moïse leur rappelle cet épisode à travers ce texte de l'Exode. Il leur rappelle aux Israélites cet épisode de leur histoire que nous sommes sur le point de lire, et il le fait pour les aider et par conséquent nous aider aussi, nous aujourd'hui, à rectifier notre perspective sur la réalité de notre vie ici-bas. La vérité dans notre vie ici-bas, c'est que nous attendons longuement et douloureusement la réalisation de ce que Dieu a promis. Ça, c'est la réalité de notre vie ici-bas. Moïse veut corriger notre perspective là-dessus pour nous aider à persévérer. Et la leçon de ce texte est toute simple en définitive, mais combien nous avons besoin d'être convaincus dans notre for intérieur de la véracité de cette leçon qui est la suivante. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait, il sait parfaitement bien ce qu'il fait, et nous avons toutes les raisons de lui faire confiance, de lui faire entièrement confiance, malgré les circonstances parfois pénibles, ou peut-être pour certains d'entre vous, souvent pénible de notre vie. Bien sûr, on va développer un peu cette idée, on ne va pas en rester là, mais avant tout, lisons le texte et vous allez voir que c'est une histoire bien étonnante que nous allons lire aujourd'hui. Moïse vient donc, pour vous rappeler un peu le contexte, Moïse vient de se rendre auprès du peuple d'Israël qui souffre sous la servitude égyptienne. C'est Dieu qui a envoyé Moïse auprès du peuple pour leur annoncer que Dieu va les délivrer. Et ce qu'on a découvert à la fin du chapitre 4, c'est que le peuple croit Moïse, et qu'il se prosterne, et qu'il croit à Dieu, et qu'il adore Dieu. Alors voyons ce qui se passe juste après. Nous lisons à partir du début du chapitre 5. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès du Pharaon et lui dirent: « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse partir mon peuple pour qu'il célèbre une fête en mon honneur au désert. » Le pharaon répondit: Qui est l'Éternel pour que je lui obéisse en laissant partir Israël? Je ne connais pas l'Éternel, aussi je ne laisserai point partir Israël. » Ils dirent: Le Dieu des Hébreux est venu au-devant de nous. Accorde-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. » Le roi d'Égypte leur dit: Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. » Le pharaon dit: C'est maintenant où cette population née dans le pays est devenue nombreuse que vous allez interrompre ses travaux? Et le jour même, le pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires. Vous ne donnerez plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes se ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous ne la diminuerez en rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi ils crient en disant « Allons offrir des sacrifices à notre Dieu !» Accablez ces gens de travail, qu'ils aient par là de quoi s'occuper et ne prennent plus garde à des faussetés. Les inspecteurs du peuple et les commissaires allèrent dire au peuple. Ainsi parle le pharaon, je ne vous donne plus de paille. Allez vous-même vous procurer de la paille, vous en trouverez, car l'on ne diminue en rien votre tâche. Le peuple se dispersa dans tout le pays d'Égypte pour ramasser du chaume au lieu de paille. Les inspecteurs les pressaient en disant, finissez votre ouvrage journalier, comme quand il y avait de la paille. On frappait même les commissaires des Israélites, établis sur eux par les inspecteurs du pharaon. Pourquoi, disait-on, n'avez-vous pas fini de pétrir hier et aujourd'hui le nombre de briques qui vous étaient imposées comme avant? Les commissaires des Israélites allèrent se plaindre au pharaon et lui dirent « Pourquoi traites-tu ainsi tes serviteurs? On ne donne point de paille à tes serviteurs et on nous dit « Faites des briques, alors tes serviteurs sont battus et c'est ton peuple qui est en faute ?» Le pharaon répondit « Vous êtes des paresseux, voilà pourquoi vous dites « Allons offrir des sacrifices à l'Éternel. Maintenant, allez à votre tâche, on ne vous donnera pas de paille et vous livrerez la même quantité de briques. » Les commissaires des Israélites virent qu'on les rendait malheureux en disant « Vous ne diminuerez rien du nombre de briques à livrer chaque jour. » En sortant de chez le pharaon, ils rejoignirent Moïse et Aaron qui les attendaient. Et ils leur dirent « Que l'Éternel vous regarde et qu'il juge. Vous nous avez rendu odieux au pharaon et à ses serviteurs. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous tuer. » Moïse retourna vers l'Éternel et dit « Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple ? Pourquoi m'as-tu envoyé? Depuis que je suis allé vers le pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple et tu n'as pas du tout délivré ton peuple. » L'Éternel dit à Moïse, « Tu verras maintenant ce que je vais faire au pharaon. C'est sous l'emprise d'une main puissante qu'il laissera partir le peuple et sous cette emprise qu'il le chassera de son pays. » Dieu parla encore à Moïse et lui dit, « Moi je suis l'Éternel, je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. » Mais je n'ai pas été reconnu par eux sous mon nom, l'Éternel. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays où ils ont séjourné, là où ils ont immigré. Moi, j'ai entendu le soupir des Israélites que les Égyptiens asservissent, et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi dis aux Israélites, « Je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux pénibles dont vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de la servitude à laquelle ils vous soumettent, et je vous rachèterai par la force de mon bras. » Et par de grands jugements, je vous prendrai pour que vous soyez mon peuple, je serai votre Dieu, et vous reconnaîtrez que c'est moi l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux pénibles dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi, l'Éternel. » C'est ainsi que Moïse parla aux Israélites. Mais ils n'écoutèrent pas Moïse, à cause de leur impatience et de leur dure servitude. On s'arrête là pour la lecture de la parole de Dieu et je vous invite à prier. Merci notre Dieu, notre Père, pour ta parole. Veuille maintenant nous aider à la comprendre. Instruis-nous grâce à l'action de ton esprit dans notre intelligence et applique la vérité de ta parole à notre vie pour nous sanctifier. Au nom de Jésus. Amen. Alors je l'ai dit, le but de ce texte, c'est de nous convaincre que Dieu sait ce qu'il fait. Et par conséquent, de nous inciter à avoir confiance en Dieu, malgré les circonstances pénibles, parfois très douloureuses, parfois déconcertantes de notre vie. Et pour cela, la première chose que fait Moïse, c'est de nous faire comprendre que dans ce que Dieu fait, il y a des enjeux qui nous dépassent. Dans ces versets 1 à 9, au début du chapitre 5, le texte raconte la première confrontation entre Moïse et Pharaon. Moïse qui n'est pas tout seul, il est accompagné de son frère Aaron, conformément à ce que Dieu avait prévu. Première confrontation entre les envoyés de Dieu et Pharaon. Alors ces versets 1 à 9, au début du chapitre 5, sont très importants. Pourquoi ? Parce qu'ils servent d'introduction à la deuxième grande section du livre de l'Exode. Rappelez-vous que les chapitres 1 à 4, c'était déjà une première grosse section, et maintenant on a une deuxième grande section, les chapitres 5 à 14, à 12, oui, 14. Et dans cette introduction, Moïse présente la véritable problématique de l'histoire qu'il est sur le point de raconter. Cette problématique est incarnée par un personnage, le personnage de Pharaon, dont on apprend trois choses dans ces versets. Qu'il ne connaît pas Dieu, qu'il ne craint pas Dieu, et qu'il ne croit pas Dieu. Moïse rappelle donc au lecteur que l'action de son récit ne se déroule pas dans un contexte de neutralité, mais dans un monde en rébellion contre Dieu, dans un monde où des pouvoirs tels que celui de Pharaon s'élèvent contre Dieu pour lui faire concurrence. Bref, l'action se déroule dans un monde déchu. Ce constat est très important à faire. Pourquoi ? Et pourquoi Moïse le fait-il ? En introduction à tout ce qui va se passer dans les 8 prochains chapitres. Parce que Moïse nous montre que la libération du peuple d'Israël s'inscrit dans un contexte où il y a bien plus de choses en jeu que le simple bien-être du peuple d'Israël. En fait, ce que Dieu va faire pour Israël ne concerne pas seulement Israël, mais concerne aussi au plus haut point l'Égypte et son représentant, le Pharaon. Dieu sait ce qu'il fait, et dans ce qu'il fait, il y a des enjeux qui nous dépassent. Il était important pour les Israélites de se rendre compte qu'il y avait, dans le plan de Dieu, des enjeux qui dépassaient leurs simples intérêts personnels à eux, les Israélites. Il n'est pas question que des Israélites dans ce que Dieu fait. Et de même, nous aussi, aujourd'hui, nous devons nous rendre compte que nos propres personnes, vous et moi, si importants que nous puissions être, nos propres personnes ne sont pas l'enjeu principal de ce que Dieu fait dans le monde, mes amis. Et on va voir dans un petit moment quel est l'enjeu principal de ce que Dieu fait. On va le voir tout à l'heure. Mais pour l'instant, nous devons accepter le fait que ce ne sont pas d'abord nos intérêts personnels qui conditionnent ce que Dieu fait. D'accord ? Ce ne sont pas nos intérêts personnels, notre intérêt personnel, qui conditionnent ce que Dieu fait. Et pourtant, comme on l'a vu la dernière fois, Dieu tient à son peuple. Il tient énormément à son peuple. Mais il y a quand même des enjeux qui les dépassent dans ce que Dieu fait. Et pour illustrer ce point, on peut penser à la situation de crise économique dans laquelle nous vivons actuellement. Chacun de nous, je pense, subit d'une façon ou d'une autre les effets néfastes de cette crise dans laquelle nous sommes. Mais voilà que pour remédier à la situation, les autorités politiques, bien souvent, vont mettre en place des mesures qui nous pénalisent encore plus. C'est bizarre, comment est-ce possible ? Eh bien, c'est possible, parce que les enjeux de la crise, voyez-vous, au niveau économique en tout cas, et au niveau national, voire au niveau international, les enjeux de la crise nécessitent des mesures qui ne vont pas forcément dans le sens de notre intérêt immédiat et personnel. Et de la même façon, nous vivons aujourd'hui dans un monde qui n'est pas seulement en crise économique, mais qui est en crise spirituel, c'est-à-dire dans un monde déchu où des pouvoirs de partout, comme celui de Pharaon, s'élèvent contre Dieu. Un monde où des hommes ne connaissent pas Dieu, ne craignent pas Dieu et ne croient pas Dieu. Et ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui, dans votre vie comme dans l'histoire, ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui, ce que Dieu a été en train de faire depuis maintenant des millénaires, eh bien, ce qu'il est en train de faire tient compte de cette réalité, d'un monde déchu où beaucoup de choses vont mal. D'un monde qui ne connaît pas Dieu, qui ne craint pas Dieu et qui ne croit pas à sa parole. Alors oui, je compte aux yeux de Dieu. On l'a vu la dernière fois. Je compte aux yeux de Dieu si je suis un croyant, si je suis membre de son peuple. Je compte aux yeux de Dieu. Mais le plan de Dieu ne se résume pas à mon propre bonheur. Ce premier point, c'est donc un appel à l'humilité, au recul et à la lucidité. Bien souvent, les circonstances de notre vie sont pénibles, elles sont douloureuses, elles sont déconcertantes, parfois tragiques. Pourquoi donc Dieu tarde-t-il à accomplir ses promesses ? Eh bien parce qu'il y a des enjeux qui nous dépassent. Mais regardons la suite pour essayer de comprendre ce que Dieu est en train de faire. « Mais avant de donner la parole à Dieu, pour qu'il dise ce qu'il pense de cette situation, Dieu qui va répondre à la détresse et à l'incompréhension de Moïse et du peuple d'Israël, avant cela, Moïse va expliquer en long, en large et en travers les conséquences très néfastes, finalement, de la démarche de Moïse et d'Aaron auprès du Pharaon. Vous avez remarqué ça, hein, dans les versets 10 à 21, chapitre 5. Le récit insiste sur une idée bien, bien précise. C'est que la foi du peuple en Dieu et dans ses promesses, ainsi que l'obéissance de Moïse et d'Aaron aux ordres de Dieu, ces choses-là, ont produit exactement l'inverse de ce qu'on pensait devait arriver. Alors, j'ai dit tout à l'heure, à la fin du chapitre 4, le peuple est exemplaire. Il croit à Dieu, ils reconnaissent que Dieu les a visités, ils s'inclinent et se prosternent dans la foi et l'adoration. Formidable. Ensuite, début du chapitre 5, Moïse et Aaron obéissent à Dieu, ils vont se présenter au Pharaon pour lui dire exactement ce que Dieu leur a dit de lui dire. Résultat des courses, une servitude qui empire, des conditions de travail qui empirent, qui se dégradent terriblement. Au lieu d'être délivré de la servitude égyptienne, le peuple subit un traitement encore pire. Et en plus, Moïse et Aaron perdent la confiance des responsables du peuple. Alors quand on arrive à ce stade du récit, on est totalement perplexe, n'est-ce pas? Comme ont dû l'être les Israélites à ce moment-là de leur histoire. Enfin, surtout Moïse et Aaron. En fait, Moïse est en train de nous faire comprendre quelque chose de très simple, c'est que malgré notre foi et notre fidélité, nous allons parfois souffrir en attendant la réalisation des promesses de Dieu. Nous allons parfois souffrir en attendant la réalisation des promesses de Dieu. Dieu sait ce qu'il fait, mais dans ce qu'il fait, il y a parfois, pour nous, des circonstances très pénibles à traverser. Il y a une chose que je veux vraiment qu'on comprenne ici. C'est que si Moïse prend tous ces versets pour nous expliquer la dégradation de la situation des Israélites, c'est pour insister sur la contradiction apparente, en tout cas, entre ce que Dieu a promis de faire et ce qui se passe en réalité dans l'expérience des Israélites. Cette contradiction est d'autant plus évidente et dramatique que, comme je l'ai dit, le peuple faisait confiance à Dieu. Le peuple croyait à ses promesses à la fin du chapitre 4. Moïse est obéissant à la mission que Dieu lui a confiée, alors que Moïse, au départ, vous rappelez, il n'avait pas du tout envie de le faire. Et finalement, il s'est incliné, il a obéi. Le récit est donc très très réaliste. Et c'est ce réalisme que Moïse veut nous transmettre. C'est un peu comme si moi j'avais le projet de gravir l'Everest, d'accord? Le point culminant de l'Himalaya. Et que je me renseigne auprès d'un guide de haute montagne pour connaître un peu mieux les conditions d'ascension. Imaginez que le guide de haute montagne me réponde « L'Everest ? Facile ! Ha ! Tu vas arriver en haut, les doigts dans le nez. Pas besoin d'équipement particulier. Tu vas voir, c'est du gâteau, l'Everest. » Est-ce que c'est réaliste ? Non, ça, c'est pas une réponse réaliste. La réponse réaliste, ce serait plutôt quoi ? L'Everest ? Aïe, aïe, aïe. Il y a 9 chances sur 10 que tu n'arrives pas au sommet. Tu risques même de mourir. Il va te falloir beaucoup d'équipement et c'est très cher. Finalement, t'es sûr de vouloir essayer ? Ça, c'est du réalisme. Et c'est du réalisme comparable à celui de Moïse dans le texte. Et dans le texte, Moïse parle non pas de gravir l'Everest, mais il parle de la marche du peuple avec Dieu. Moïse sait que bien souvent dans son histoire, le peuple va éprouver le même genre de perplexité que dans cette situation. Il le sait d'ailleurs, ça s'est déjà produit pendant les 40 années dans le désert. Moïse ne fait pas d'angélisme, comme on dit aujourd'hui. Comme s'il disait « Croyez en Dieu, vous allez voir, tout va bien se passer ». Vous allez être heureux et tous vos problèmes vont s'évaporer. Ça, c'est de l'angélisme, mais ce n'est pas la Bible. Dans le récit, on a exactement le contraire. Le peuple croit, et d'ailleurs, en passant, dans le récit de l'Exode, c'est la première fois, à la fin du chapitre 4, que le peuple croit. Et comment leur foi est-elle récompensée ? Par des problèmes qui empirent. Ce deuxième point, donc, renforce le premier, hein. C'est aussi un appel à l'humilité, au recul et à la lucidité. Dans ce que Dieu fait, il y a des enjeux qui nous dépassent, et par conséquent, nous allons parfois faire l'expérience de circonstances terriblement douloureuses et accablantes. Le Nouveau Testament, d'ailleurs, confirme cette idée. Par exemple, lorsque les apôtres avertissent les chrétiens d'Antioche en leur disant « C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. » Ou encore, lorsque l'apôtre Paul décrit ainsi la condition des chrétiens, « Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. » Ça, c'est la vie chrétienne. Alors, qu'est-ce qui peut nous encourager ? Eh bien, heureusement que le récit ne s'arrête pas là. Moïse exprime donc sa détresse et sa frustration à Dieu, dans les versets, à partir du verset 22, chapitre 5, et il le fait de façon très poignante. « Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple ? Pourquoi m'as-tu envoyé ? Depuis que je suis allé vers le Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple et tu n'as pas du tout délivré ton peuple. » Et là, c'est à Dieu de prendre la parole, et c'est ce qu'il fait au début du chapitre 6. La réponse précise de Dieu à l'incompréhension de Moïse se trouve au verset 1 du chapitre 6, mais il ne faut pas dissocier ce verset des versets suivants, les versets 2 à 8. Parce qu'au verset 1, ce qui se passe, c'est que Dieu fait comprendre à Moïse que toutes les circonstances pénibles et déconcertantes que connaît le peuple vont servir à mettre en valeur la main puissante de Dieu. Et ensuite, après ça, Dieu ajoute un discours concis, mais un discours vraiment catégorique, péremptoire, où il rappelle au peuple tout ce que le peuple est censé savoir à ce moment-là de son histoire. C'est-à-dire, un, que Dieu l'a choisi, ce peuple, pour qu'il le connaisse de façon privilégiée et pour qu'il serve à son plan. Aussi que Dieu s'est engagé avec ce peuple par une alliance. Et aussi que Dieu a promis de le délivrer de la servitude. Et aussi que ce peuple a une grande valeur aux yeux de Dieu. Et aussi qu'un jour Dieu va lui donner la terre promise conformément à ses promesses. Bref, tout ce que Dieu a révélé et que le peuple est censé savoir à ce moment-là de son histoire, tout ce que Dieu a révélé tient toujours. Mais qui est le sujet de la plupart des verbes ici dans ce discours ? C'est Dieu. Est-ce que vous avez remarqué l'insistance de Dieu ? « Je vous affranchirai, je vous délivrerai, je vous rachèterai, je vous prendrai, je serai votre Dieu, je vous ferai entrer dans le pays, je vous le donnerai en possession. » Ce que Dieu est en train de faire de comprendre à Moïse là, c'est qu'à la fin de l'histoire, il ne fera aucun doute que c'est Dieu qui a fait tout cela. À la fin de l'histoire, il ne fera aucun doute que c'est Dieu qui a fait tout cela. Personne ne pourra faire autrement que reconnaître la main puissante de Dieu. Les circonstances qui accablent le peuple serviront en fin de compte à faire éclater incontestablement la puissance et la gloire de l'Éternel, le Saint d'Israël. Quel est l'enjeu principal, donc, de ce que Dieu est en train de faire ? C'est sa gloire. Voilà pourquoi les promesses de Dieu, même si nous attendons leur accomplissement, doivent nous encourager. Elles doivent nous encourager parce que ce qui est en jeu, c'est rien de moins que la gloire de Dieu. Dieu a mis sa propre gloire en jeu. Imaginez que vous soyez en train d'assister à une partie de poker. Et d'un côté de la table, le Pharaon. De l'autre, Dieu. Pharaon pense qu'il a une meilleure main que Dieu. Il mise sur la table la force vive de son économie, c'est-à-dire le peuple hébreu. Il est convaincu qu'il va gagner, qu'il va remporter la mise. Tous les regards se tournent alors vers Dieu. Qu'est-ce qu'il va faire ? Est-ce qu'il va surenchérir ? Est-ce qu'il a les moyens de rivaliser ? Et là, sous des regards ébahis, Dieu fait tapis, comme on dit au poker, c'est-à-dire qu'il mise tout ce qu'il a. Il mise sa propre gloire. Voilà ce qui se passe dans le texte ici. Dieu sait qu'il va remporter la partie contre Pharaon. Et la souffrance à laquelle le peuple d'Israël est soumis, cette servitude qui ne fait qu'empirer dans le texte, jusque-là en tout cas, cela va servir à révéler aux yeux du monde la gloire de Dieu. Et je dis bien aux yeux du monde, c'est-à-dire non seulement aux yeux d'Israël, mais aussi aux yeux du Pharaon et de toute l'Égypte. Alors imaginez maintenant une autre partie de poker. D'un côté de la table, votre situation professionnelle précaire, ou bien votre maladie récurrente ou incurable, ou bien votre dépression, ou bien votre deuil, ou peut-être même ce péché qui vous tourmente. Bref, toutes ces circonstances que vous traversez et qui vous accablent. Vous pensez peut-être qu'elles ont une meilleure main que Dieu. Qu'est-ce qu'elles misent dans cette partie de poker? Qu'est-ce qu'elles misent, ces circonstances qui vous accablent? Elles misent leur victime, c'est-à-dire vous-même. Vous voilà dans une situation inconfortable, douloureuse, déconcertante, en proie à ces épreuves qui veulent vous asservir, qui veulent remporter la partie. Mais de l'autre côté de la table, il y a l'Éternel. Et lui, il mise sa propre gloire sur la réalisation de toutes ses promesses en votre faveur. Si Dieu a mis sa gloire en jeu, pensez-vous qu'il ne tiendra pas ses promesses? Alors comment est-ce qu'on va réagir, nous, lorsque nous serons accablés par les épreuves? Ferons-nous preuve d'impatience et d'ingratitude, malheureusement comme le peuple d'Israël, qui souffre sous la servitude, comme on le voit au verset 9, chapitre 6? Ou bien est-ce que nous répondrons aux promesses de Dieu par la foi et l'obéissance, parce que nous savons qu'à la fin de l'histoire, c'est Dieu qui remportera la partie et il le fera par une main puissante. Et nous savons qu'à la fin de l'histoire, toute circonstance douloureuse, pénible, déconcertante que nous aurons traversée, eh bien toutes ces circonstances serviront en fin de compte à faire éclater au grand jour sa gloire. Alors c'est vrai que quand on est chrétien, ça ne fait pas disparaître nos problèmes. C'est vrai qu'on a beau croire en Dieu, suivre Jésus, prier, venir au culte et lire la Bible, eh bien, ça ne nous empêche pas de tomber malade, d'être au chômage, d'avoir un accident de voiture, d'être triste pour des raisons X ou Y, bref, de souffrir ici-bas. Mais qu'est-ce qu'on a vu cet après-midi, dans ce texte? D'abord, que dans ce que Dieu fait, il y a des enjeux qui nous dépassent. Nous vivons dans un monde déchu, où il y a bien des puissances qui s'élèvent contre Dieu pour être connues, craintes et crues à sa place. Dieu n'agit pas principalement pour notre petit bonheur personnel, mais il agit principalement pour corriger une situation qui est anormale à l'échelle du monde, pour ne pas dire à l'échelle du cosmos. Dieu veut être reconnu pour qui il est. Jusqu'aux confins de l'univers, Dieu veut être reconnu pour qui il est, c'est-à-dire le vrai, le seul vrai Dieu. Et qu'est-ce qu'il compte faire? Comme le dit l'Écriture, il compte réconcilier avec lui-même tout ce qui est sur terre et dans les cieux. Voilà le programme de Dieu. Voilà un enjeu qui nous dépasse, n'est-ce pas? Qui dépasse notre propre intérêt personnel et immédiat. Et c'est pour cette raison que nous continuons aujourd'hui d'attendre la pleine réalisation des promesses de Dieu. Et cette attente est souvent douloureuse, parfois, comme je l'ai dit, déconcertante. Tel est le réalisme de la Bible. Telle est la vérité en ce qui concerne la vie chrétienne. Si vous n'êtes pas chrétien, je vous préviens, telle est la vérité en ce qui concerne la vie chrétienne. Ne laissez personne vous dire que parce que vous êtes croyant, vous êtes censé aujourd'hui être riche et en bonne santé. Ne laissez personne vous dire ça, c'est un mensonge. L'auteur de l'Épître aux Hébreux parle de croyants qui sont nos modèles, qui ont reçu par leur foi un bon témoignage, dit-il, des croyants qui pourtant n'ont pas obtenu ici-bas ce qui leur avait été promis. Ces gens-là, nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, ces gens-là qui sont, je l'ai dit, nos modèles, eh bien, ils ont été torturés, ils ont éprouvé les moqueries et le fouet. Bien plus, les chaînes et la prison, ils ont été lapidés, mis à l'épreuve, sciés, tués par l'épée. Ils ont erré vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre dans les déserts, dans les montagnes, les cavernes et les antres de la terre, dénués de tout, opprimés, maltraités. Ça, c'est la vie chrétienne pour certaines personnes. Mais on a vu aussi, et troisièmement, que les promesses de Dieu tiennent toujours. Et comment qu'elles tiennent toujours? Dieu a mis en jeu sa propre gloire dans leur réalisation. Il s'est totalement engagé dans ce qu'il a promis. Et voyez à quel point Dieu s'est engagé. Voyez dans l'histoire à quel point il s'est engagé. Non seulement il a misé sa propre gloire, non seulement il a juré sur sa propre sainteté, comme on le voit dans certains passages de l'Écriture, mais en plus, il est venu en personne. Il est venu en personne par Jésus-Christ. Et il est venu accomplir ce que personne d'autre ne pouvait faire. Il est venu sceller une fois pour toutes, toutes ses promesses. Il a révélé sa main puissante en venant habiter parmi nous, en la personne de Jésus, et en mourant et en ressuscitant au profit de tous ceux qui se confient en lui. Ce qui fait dire à l'apôtre Paul que toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus. Alors certes, comme le dit aussi Paul, comme je l'ai dit tout à l'heure d'ailleurs, nous soupirons encore en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Certes, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Mais en attendant que la gloire de Dieu éclate en plein jour aux yeux du monde entier, lors du retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ, en attendant ce jour, nous pouvons entièrement nous fier à toutes les promesses de Dieu et nous pouvons avancer par la foi et non par la vue. Parce que Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait. Et dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, dit l'apôtre Paul. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus notre Seigneur. Par conséquent, pour reprendre un verset de l'Épître aux Hébreux, par conséquent, courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi, et qui l'amène à la perfection. Amen.